Combien nous sommes reconnaissants pour ce ministère divin et mystérieux, insaisissable du Saint-Esprit, qui ouvre nos cœurs et vos cœurs par une puissance divine pour que nous voyions et pour que nous soyons touchés là où il nous le faut. Nous sommes dans une série d'études sur les cinq sacrifices de l'Ancien Testament et les sept fêtes religieuses. Pourquoi cinq sacrifices? Parce qu'il fallait regarder de cinq angles pour comprendre le seul sacrifice du Fils de Dieu. Et d'avance, Dieu enseignait aux Juifs toutes ces facettes de ce diamant de l'expiation du Sauveur au Calvaire. Cette fête religieuse, tous les hommes à partir de 12 ans devaient monter à Jérusalem pour les sept fêtes religieuses, mais il fallait monter que trois fois. Parce qu'en montant trois fois, on pouvait assister aux sept fêtes. Certains étaient donc collés les unes aux autres dans le temps. Donc il fallait monter au printemps, une première fois, vers le mois de mars, pour célébrer les trois premières fêtes. Vous avez peut-être entendu parler de la fête de Pâques, cette fête du sang de l'agneau mis sur les linteaux de la porte. Vous pouvez voir le symbole de Christ, l'agneau de Dieu. Ensuite, il y avait la fête de pain sans levain, qui commençait le lendemain et qui durait 7 jours. Tout le levain doit être ôté de la maison, de toutes les maisons du peuple de Dieu. Le levain représente le péché dans la Bible. Le Nouveau Testament l'explique. Parce que quand on est sauvé par cet agneau de Dieu, on est sauvé non pas pour juste éviter l'enfer, on est sauvé du péché, pas simplement des conséquences du péché. N'est-ce pas? Et c'est le péché qui est le problème. C'est la nonchalance vis-à-vis de Dieu, la rébellion, ces ténèbres morales qui habitent nos cœurs. Troisièmement, dans ce premier voyage en mars, donc on célébrait la fête des prémices. Et une gerbe de la moisson d'orge qui était encore dans les champs, pas récoltée, et une seule gerbe était arrachée des prémices et agitée devant l'Éternel, représentant Christ, le prémice, le premier à ressusciter d'entre les morts. Donc, dans ce premier voyage, on célébrait des fêtes qui parlaient de ce qui est pour nous le passé, de l'année 30 de notre ère, du moment où le Christ a accompli le salut. Donc, trois fêtes pour l'accomplissement du salut. Maintenant, il fallait attendre et un second voyage en mai pour observer une seule fête. C'est la fête de Pentecôte. Et c'est appelé la fête de la moisson dans la Bible. Et qu'est-ce qui arrive le jour, je ne vais pas vous réexpliquer tout cela, mais le jour de la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, 3000 personnes sont moissonnées et commence ainsi la grande moisson des âmes de toute nation dans le grenier de Dieu, si nous pouvons le dire comme ça. Et maintenant, il fallait attendre jusqu'à septembre pour les dernières fêtes. Donc, les premières fêtes en mars, l'accomplissement du salut. La fête suivante, la Pentecôte, donc en mai, nous rappelle non pas du passé de l'œuvre de Christ, mais du présent, parce que Dieu est en train de moissonner. Accomplissement du salut, application du salut, c'est la Pentecôte. Et maintenant, nous allons parler des trois dernières fêtes qui sont ensemble, qui se passent en septembre et qui nous parlent, qui parlaient aux Juifs symboliquement de la consommation du salut. C'est ça ?
Consommation.
Excusez-moi. De la consommation du salut. Donc, de la finalité du salut, du jugement à venir. Et c'est assez époustouflant pour nous de réaliser que, d'une manière si bien ficelée, Dieu a raconté toute l'histoire depuis la venue du Christ jusqu'à la fin du monde dans les sept fêtes religieuses d'Israël. C'est incroyable. Il leur a donné une sorte de calendrier L'accomplissement du salut, l'application du salut et la consommation du salut. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête des trompettes et le jour de l'expiation. Ce sont deux des trois dernières fêtes. Je ne vais pas arriver à vous parler de trois fêtes en un sermon. Vous commencez à craindre déjà avec cette introduction longue. Et même pour le jour de l'expiation, je vais vous parler vaguement en général. Et dimanche prochain, nous allons vraiment parler en détail. Mais il faut que je vous parle de un peu du jour de l'expiation, parce qu'il est la raison pour la fête des trompettes. Bien, nous sommes juifs et il est l'automne. Nous devons donc monter dans le mois de Tisri, qui correspond un peu à notre mois de septembre à Jérusalem. Et nous allons célébrer donc ces trois fêtes. La fête des trompettes, le jour de l'expiation et donc la fête des huttes, ou des tabernacles, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Donc, Tisri, le septième mois du calendrier. Premier mois, le mois de Nisan, d'accord? Septième mois, Tisri, septième mois. Le numéro 7 est très sacré pour le juif, ça signifie l'achèvement, n'est-ce pas? Le septième jour, c'est le jour de l'achèvement de la création. Ok, et Dieu se repose. Le septième jour de chaque semaine, c'est le sabbat. C'est la fin, c'est l'achèvement d'une semaine et on se repose. Et maintenant, nous arrivons à Jérusalem dans le septième mois qui va nous faire penser à l'achèvement. En fait, c'est l'achèvement du calendrier religieux et du cycle des fêtes religieuses. Ok? Donc, on arrive à cette fin du calendrier symbolique de l'histoire humaine. Et bien sûr, ça va nous parler de la fin, l'achèvement de la fin du monde. Donc, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Tisri, le septième mois, c'est le septième mois, mais c'est aussi le premier mois. Parce que les Juifs ont un calendrier religieux et un calendrier agriculturel et civil. Et Tisri est le premier mois de l'année civile. De sorte que si tu demandes à un juif aujourd'hui, il va te dire que la fête des trompettes que nous étudions aujourd'hui, c'est la fête du nouvel an. Alors que c'est le septième mois. C'est le septième mois, c'est dans un autre sens, c'est le premier mois. Mais vous êtes exactement comme ça vous-même. Vous allez dans une classe en septembre, et une personne se tient debout, le maître, et il dit, dans cette nouvelle année, nous allons, quand il dit cette nouvelle année, il parle de quand? Il parle de septembre. C'est le premier mois de l'année scolaire. Or, si vous regardez la télé, et le président dit, je vous souhaite à toute la nation une bonne année, bonne nouvelle année. Il parle de quel mois? Il parle de janvier. Nous aussi, nous fonctionnons sans aucun problème sur deux calendriers tout le temps. Les Juifs aussi. Mais il faut juste que vous sachiez que lorsque nous allons monter à Jérusalem, dans notre tête en tant que Juifs, dans un sens, c'est le mois de l'achèvement, et dans un autre sens, c'est le mois de commencement. C'est logique, un achèvement signifie aussi un commencement d'autre chose. Et la fin du monde est un achèvement de ce monde, mais signale le commencement de la vie éternelle. Donc, septembre, c'est le mois le plus tranquille de l'année pour nous, en tant que juifs, parce qu'on a tout récolté. On a eu un moment très, très occupé depuis plusieurs mois avant septembre, avec, il y avait l'orge, il y avait le fruit, il y avait les olives, il y avait les raisins, il y avait le blé. On a, l'une après l'autre, toutes ces moissons ont été faites. Et maintenant, il n'y a rien à faire en septembre. Mais franchement, parce que ce n'est pas encore le temps pour la semence. Et dans sa grande sagesse, c'est là que Dieu nous fait venir devant sa face à Jérusalem. Pour ne pas nous laisser dans l'oisité, n'est-ce pas? nous allons utiliser notre temps libre pour servir Dieu et pour nous tourner vers lui. D'accord? Donc, nous allons, comme je vous ai dit, regarder ces deux fêtes aujourd'hui. La fête des trompettes se passe le premier jour du mois. Le premier jour du mois du septième mois. Un jour de fête, un seul jour. Dix jours plus tard, c'est le jour de l'expiation, la deuxième fête. Ok? Un jour de fête. Et on parlera de la fête des huttes qui commence le 15e du mois, mais on parlera de ça plus tard. Mais nous allons les prendre dans l'ordre inverse. On ne va pas parler de la fête des trompettes qui se passe le 1er du mois. Nous allons commencer avec le jour de l'expiation qui commence le 10e du mois. Pourquoi? Parce que la fête des trompettes est simplement une fête de préparation pour nous préparer pour le jour de l'expiation. Et donc, pour que vous compreniez, on doit savoir, on est en train de se préparer pour quoi en faisant ces trompettes. On va sonner des trompettes toute la journée. Mais qu'est-ce que ça signifie? Donc moi, je vais vous parler de ce pourquoi on se prépare d'abord, donc le jour de l'expiation. Donc commençons à parler de cette deuxième fête, le jour de l'expiation. Et pour cela, nous allons lire notre texte dans Lévitique 23. Et ne craignez pas, je vais aller assez rapidement après maintenant. Nous commençons notre lecture à partir du verset 23, dans le chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, le septième mois, le premier du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. » C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas devant ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes le 9 du mois au soir, qui commence le 10e jour, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Maintenant, je vais juste vous lire dans Nombre chapitre 29, un deuxième passage qui nous donne des détails supplémentaires dont nous avons besoin pour tout comprendre. Donc je lis à partir du verset 1 en Nombre 29. Le septième mois, le premier du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Ce sera pour vous un jour marqué par une clameur. On parle ici de faire sonner. La clameur, c'est la clameur des trompettes qui est expliquée ailleurs. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché afin de faire pour vous l'expiation, outre l'holocauste et son offrande correspondante de chaque mois. L'holocauste perpétuel, son offrande et ses libations d'après les ordonnances établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage. Vous présenterez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante, je ne vais pas tout lire, verset 11, vous offrirez un bouc pour le péché outre le sacrifice expiatoire pour le péché, l'holocauste perpétuel ainsi que l'offrande et les libations. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette fête du jour des expiations? Si vous commencez à avoir trop chaud, vous signalez à Nikki ou vous ouvrez une fenêtre, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que juifs ce jour-là? D'abord, c'est un sabbat. Vous avez entendu, c'est une sainte convocation, un sabbat, merci. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un jour ordinaire. Un sabbat est un jour de repos, un jour mis à part pour l'Éternel. Et donc, on ne fait aucune préoccupation ordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire ce jour-là. C'est un jour extraordinaire. Attention. Donc, vous avez compris que le plus saint une activité, la plus sainte une activité, la plus intensément, nous devons nous abstenir de choses profanes pour nous y occuper. Et là, nous sommes dans le jour de l'expiation, sur le jour le plus solennel et le plus sacré de l'année des Juifs. D'accord? Vous avez vu dans le verset 30 que même Dieu parle de la punition, la peine capitale pour la personne qui, sciemment, qui s'occupe des choses banales et profanes ce jour-là. C'est comme quelqu'un qui, le jour du jugement dernier, va faire fi de Dieu en s'occupant d'une chose banale. Ça peut pas être. Deuxièmement, c'est pas seulement un sabbat, un jour saint, c'est aussi un jour d'expiation. Et donc, vous avez remarqué dans les versets, je vais juste refaire allusion au verset 27-29. Donc là, nous lisons que le dixième de ce septième jour, ce sera le jour des expiations. C'est appelé même par son nom. Le verset, oui, pardon, qu'est-ce que j'ai voulu? Le verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié. Vous allez vous humilier donc devant l'Éternel. Donc c'est le jour de l'expiation. Rappelons-nous qu'il y avait des sacrifices tous les jours. Dans le temple à Jérusalem, et il y avait d'autres fêtes où il y avait des sacrifices d'expiation. Mais ce jour-là, quand nous montons, le dixième jour du septième mois, c'est le jour de l'expiation. C'est le seul jour de l'année, chers amis, où le grand sacrificateur, le chef des sacrificateurs, a le droit d'entrer dans le lieu très saint du temple. Le temple avait des pièces, et il y avait deux pièces notamment, le lieu saint. Dans cette pièce, tous les sacrificateurs pouvaient aller quand il fallait pour s'occuper des rites. Mais séparé par un rideau, il y avait une autre pièce qui s'appelait le lieu très saint. Et dans ce lieu, personne ne pouvait entrer sauf une personne de la nation, le grand sacrificateur. Et lui, il ne pouvait entrer qu'un seul jour de l'année, c'est ce jour-là. Il devait entrer avec une corde attachée à sa cheville. Pourquoi? Parce que s'il faisait une bêtise dans la sainte présence de Dieu, parce que dans ce lieu était la présence manifeste de Dieu, qui va aller le chercher? Il va mourir dans la présence de Dieu pour avoir fauté devant sa face et personne ne peut aller le chercher. Donc il faut une corde pour qu'on puisse le tirer de là. Il a aussi des clochettes sur son vêtement pour qu'on puisse entendre qu'il est toujours vivant. Ça, c'est la sorte de Dieu que nous adorons. Et donc, c'est le seul jour où il pénètre dans ce lieu saint qui représente la présence immédiate de Dieu. Et nous pouvons entrevoir la résurrection de Christ où Christ va au-delà du voile. Il quitte ce monde, ce bas monde, et il entre dans la présence même de Dieu pour présenter son sang au Père. Mais nous allons parler de ça dimanche prochain. Donc, c'est un jour d'expiation où le sang va vraiment aller le plus loin devant Dieu lui-même et être agréé et rendre propice Dieu vis-à-vis de nos péchés. C'est aussi un jour, Shabbat, d'expiation, mais un jour d'humiliation. C'est un jour pour se lamenter. C'est la seule fête religieuse où Dieu ne commande pas à son peuple de se réjouir devant lui. Il nous ordonne de nous réjouir devant lui parce qu'il est un grand Dieu d'amour et de grâce et de salut. Mais ce jour, c'est un jour où Dieu nous commande de nous affliger, de nous humilier devant sa face parce que ce jour, c'est le jour de jugement dans un sens. C'est le jour où nos péchés vont être expiés devant Dieu. Donc, vous avez lu à répétition ici que vous devez vous humilier vos âmes donc d'un soir à l'autre, c'est-à-dire toute la journée. Toute la journée, nous devons prendre le temps pour ne pas faire des choses ordinaires et profanes et banales et être dans la présence de Dieu, juge et sauveur, et réfléchir à nos péchés devant sa face et comment lui, il regarde nos péchés, pas comment nous les regardons. N'est-ce pas bien pour nous aussi en tant que chrétiens de prendre du temps, parfois, de réfléchir à nous-mêmes et au jugement dernier? Est-ce que vous avez jamais pris une journée entière pour penser au jugement dernier et au salut dernier? C'est quelque chose, hein, de vivre ces choses en tant que juif. Et je crois que l'Église est vraiment très superficielle et affaiblie là où les hommes et les femmes n'ont jamais appris à se regarder, à s'examiner devant Dieu et donc à faire face à leurs péchés devant lui. Pas du tout dans un but de devenir introspective ou la mauvaise sorte de culpabilité qui ne voit pas la grâce. Donc la culpabilité n'a pas le dernier mot, mais pour comprendre la grâce et recevoir la grâce, Dieu doit nous parler de nos péchés. Ensuite, c'est un jour pour faire le tri parmi les hommes. Nous avons lu au début du culte au sujet du jour de jugement que le jour viendra où Dieu fera la différence entre l'homme juste et l'homme injuste. Et ici, nous lisons, regardez le verset 29. Nous lisons dans ce verset, « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Donc cela nous indique que c'est un jour de tri. Toute personne ce jour-là qui ne pense pas qu'il ait besoin de confesser, de s'humilier, de se lamenter vis-à-vis de sa vie. Toute personne qui pense que « Non, moi je suis bien devant Dieu, il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. » Toute personne comme ça sera retranchée du peuple. Parce que l'Église chrétienne, chers amis, le vrai peuple de Dieu, se démarque par le fait, justement, comme Jésus a dit, « Bienheureux ceux qui se lamentent, car eux, ils seront consolés. » Daryl a dit le dimanche passé, en parlant des moments de témoignage sur le campus, qu'il rencontre des gens qui disent « Oui, je sais que je fais des choses mauvaises, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour me pardonner. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à des personnes qui disent « Dieu n'est pas mon juge, je n'ai aucune sentence morale à craindre de sa part. » Ecclésiaste dit, écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous voulez définir le péché, je vais vous donner aujourd'hui une simple définition. Il y a beaucoup de manières de définir le péché, selon la Bible, mais en voilà une. Le péché, dans son essence, c'est le fait de ne pas prendre Dieu au sérieux. Je sais que je fais des choses mauvaises, mais je n'ai pas besoin de Dieu pour me pardonner. Cette affirmation révèle dans sa nature pristine et méchante ce qu'est le péché. Je ne prends pas Dieu assez au sérieux pour m'en faire vis-à-vis de lui. Il est tellement léger dans ma balance, il est tellement sans poids dans mon estimation que je ferai le mal que je veux sans le craindre du tout. Donc c'est la folie du péché, chers amis, l'aveuglement des hommes qui pensent qu'ils n'ont rien à craindre de Dieu. Mais le jour du jugement va changer tout cela. Le jour du jugement, tout homme sur la terre, on va venir de nos cimetières, de nos tombeaux, nous paraîtrons devant Dieu. La terre et les cieux vont essayer de fuir selon l'Apocalypse et ne pourront pas. Et les grands et les petits seront arrivés en parution devant le juge tout-puissant, infiniment saint, qui est lumière et en qui il n'y a point de ténèbres. Et en ce jour-là, nous allons tous comprendre subitement que la seule chose à prendre au sérieux dans la vie, c'était Dieu. Et que le sens de la vie même, c'était devant lui, c'était vis-à-vis de son évaluation que je vivais toute ma vie, et la seule chose qui comptait éternellement, c'était justement son jugement vis-à-vis de moi. Je pense souvent au jugement. Quand je prie, j'essaie de penser délibérément au jour de ma mort, comme le puritain Richard Baxter qui prenait 20 minutes chaque jour pour penser au jour de sa mort. Et quand je pense au moment où je paraîtrai devant ce Dieu insondable, insondablement pur, je suis dans la frayeur. Je suis dans la frayeur et j'ai envie de dire, je laisse tout, toute ma vie, toutes mes soi-disant bonnes œuvres, donne-moi le sang du Fils de Dieu. C'est dans cela que je veux paraître. Oh, que je ne paraisse pas dans Dieu revêtu de ma propre justice. Oh, grand Dieu, qu'il n'en soit ainsi. Je vais vous lire juste un ou deux passages et puis nous passons rapidement à la fin où nous allons quitter le jour de l'expiation et parler de la fête des trompettes. Mais je finis en vous disant, ce jour d'expiation nous parle de la fin, du moment d'outri où soit l'expiation sera la tienne, tu seras sauvé parce que ta foi est dans le Christ, soit tu seras retranché du peuple parce que le péché, tu n'en as rien à faire. Apocalypse 6. Je regardais, dit Jean, quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Imagez, ça parle des puissances, symboliquement des puissances célestes qui sont ébranlées. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Je crois que je vais arrêter là pour les lectures. Mais vous comprenez, donc maintenant, pourquoi il faut une autre fête pour préparer pour ce jour tellement sacré et tellement solennel, il faut une préparation. Donc, on va remonter 10 jours. Nous sommes maintenant au premier jour du mois et nous allons célébrer une fête spéciale qui s'appelle la fête des trompettes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un sabbat, un jour saint aussi. Et donc, c'est pas un jour de repos pour rien faire. Dans la Bible, le repos ne signifie pas rien faire. Le repos signifie arrêter les choses communes, ordinaires, pour s'occuper des choses éternelles. D'accord? Ça, c'est le sens du repos sacré. Pour jouir de Dieu pleinement. C'est un jour pour les offrandes. Nous lisons dans le verset 25, je vais essayer d'aller rapidement maintenant. Dans le verset 25, il dit « Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ok. Donc, quand les Juifs, comme nous avons étudié, savaient qu'on ne s'approche jamais de Dieu sur la base de qui je suis. La seule manière dont je peux m'approcher de Dieu, c'est sur la base d'un substitut qui meurt à ma place et qui ôte la peine de mes péchés. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices. Nous avons lu dans le livre de Nombres, il y a 7 agneaux qui sont sacrifiés ce jour-là. Il y a un bélier, il y a un taureau, il y a toutes sortes de sacrifices. On ne va pas entrer dans tout cela. Mais la seule chose que nous devons comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans le verset 6 du nombre 29, vous ne l'avez pas remarqué parce que ma traduction n'était pas très bonne, nous avons lu ceci, qu'on doit offrir tous ces sacrifices pour la fête des trompettes, outre, c'est-à-dire en plus, de l'holocauste et son offrande de chaque mois. Littéralement en hébreu, le texte dit « outre les sacrifices de la nouvelle lune ». Je m'explique. Pour les Juifs, il y a un calendrier lunaire. Et chaque mois commence à la pleine lune. D'accord? Et donc, le premier jour de chaque mois, on appelle la nouvelle lune. C'est le début d'un nouveau cycle. N'est-ce pas? Et chaque nouvelle lune est une fête. Pas une des 7 fêtes où tout le monde doit rentrer à Jérusalem. Non, on peut rester chez soi dans les villes d'Israël pour les nouvelles lunes, mais c'est un jour de sabbat et on doit offrir des sacrifices au temple. D'accord? Il y a certains sacrifices. Et donc, à ces sacrifices, maintenant, la fête des trompettes, le jour de la fête des trompettes, est à la fois une fête de nouvelle lune, parce que c'est le premier, mais c'est une fête de nouvelle lune spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on faisait les fêtes de Nouvelle Lune? Quand on offrait ces sacrifices, le livre de Nombres, chapitre 10, nous dit qu'on sonnait des trompettes au-dessus des sacrifices. Une fois, juste un moment de la journée, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, au-dessus des sacrifices, on sonne les trompettes juste à un moment. Mais le jour de la fête des trompettes, on va sonner les trompettes au-dessus des sacrifices toute la journée. Toute la journée, on est à Jérusalem et il y a une clameur du soir au-dessus des sacrifices. Ces trompettes sonnent. Et nous avons facilement le message. Quand la trompette sonne, c'est pour nous avertir. Soit pour aller en guerre, les trompettes sonnaient, soit pour une convocation. Mais ici, Dieu est en train de nous avertir. Dans 10 jours, vient le jour d'expiation. Humiliez-vous et préparez-vous. C'est un jour de sabbat. On ne fait rien d'ordinaire, les trompettes sonnent et nous comprenons donc ce message. Maintenant, vous devez comprendre que le son des trompettes a un double sens, un sens explicite et un sens implicite. Quel est le sens explicite? Alors, le sens explicite, c'est que en sonnant les trompettes, nous sommes en train de rappeler Dieu de sa propre promesse de salut, de son sacrifice qu'il a donné lui-même, qu'il est le Dieu qui nous dit « Confiez-vous à moi et je vous sauverai, je vous pardonnerai. » Et on ne va pas sonner les trompettes ici ou là, mais au-dessus des sacrifices pour donner toute l'attention là à ces sacrifices et dire à Dieu « Alors, tu nous as donné une expiation, nous y comptons, nous nous y remettons, regardez-nous en fonction de ta promesse. » D'accord? Dans les versions différentes de la Bible, donc le verset qui on parle est pas très bien traduit. Dit aux Israélites, le premier jour de la septième jour, il y aura pour vous un repos sabbatique d'évocation et d'acclamation. Ok, ça c'est la nouvelle Bible seconde. La colombe parle aux Israélites, le septième mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. C'est un peu mieux, le mot rappelé, c'est le mot clé, parce qu'on veut rappeler à Dieu, on veut attirer son regard. Mais le taube est la meilleure traduction, parce que le taube traduit ce mot hébreu bien. Parle aux fils d'Israël, le septième jour, c'est pour vous un jour de repos, un jour de souvenir et d'acclamation. Un jour de souvenir, quel souvenir? Nous nous rappelons de quelque chose? Non, nous rappelons Dieu de quelque chose, qui nous a promis le salut et qui nous a donné le moyen du salut. Je vous le prouve en lisant Nombre 10. Écoutez bien. Il dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, y compris fêtes de trompettes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez? C'est une manière de se mettre en souvenir devant Dieu. Regarde où est notre attention, où est notre foi, où est notre confiance. C'est dans ce que tu as fait en Jésus-Christ, c'est le symbole. Nous regardons vers lui, nous sonnons nos trompettes vers lui. C'est lui tout notre salut du début à la fin. Regarde-nous en fonction de cela. C'est ça le but, afin d'être prêt pour le jour de l'expiation, le jour de tri. Ça, c'est le sens explicite. On est en train de rappeler à Dieu, entre guillemets. Il n'oublie pas, mais on le rappelle quand même. Mais le sens implicite, si on est en train de rappeler à Dieu, sauve-nous, applique ce salut que tu nous as promis, c'est que nous sommes en danger. C'est que nous avons besoin justement de son pardon. Et implicitement, les trompettes sont donc une manière de dire, réveillez-vous tout le monde, le jour arrive. Hein? Le jour du jugement, dans 10 jours, il y aura le jour d'expiation, le jour le plus saint. Le jour le plus solennel. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous regardez les jours de la nouvelle lune, premier mois, bon, les trompettes sonnent pendant juste un moment. Deuxième mois, bon, troisième, bon, arrivé au septième, bon. Maintenant, dites-moi, quand vous entendez un son comme ça, tan 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 tan, c'est quoi? C'est un compte à rebours, n'est-ce pas? Je vais à Bruxelles et quand je traverse la rue à Bruxelles, ils ont des signalements, enfin pour les piétons, et il y a un minuteur au dedans de la machine, et parce que j'entends ta 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 ta. Et je sais que je peux marcher. Voilà. Voilà. Mais c'est cela. Les nouvelles lunes nous amènent au mois de l'achèvement. Et donc, c'est là, c'est le compte à rebours. Et la fête des trompettes annonce que toute la journée, nous y sommes! Le jugement arrive dans 10 jours, préparez-vous. Nous terminons juste en citant 2 versets du Nouveau Testament. Donc je vous appelle, vous aussi, à vous préparer. Il y a un compte à rebours, n'est-ce pas? Le jugement vient, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que ce jour ne soit pas un jour de jugement pour vous, mais un jour d'expiation, un jour de salut, un jour de grâce, un jour où tous les péchés sont partis, sont effacés. Et le Nouveau Testament nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, si nous croyons en Christ, si toute notre attention et notre foi est en lui, ce sont sacrifices, c'est lui qui nous sauve, c'est le Christ qui est sauveur. C'est pas ma bonté, c'est sa bonté. Si ma foi est en lui, la Bible dit, et nous serons changés ce jour-là. Deuxième passage. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ, les croyants, ressusciteront premièrement. Que le Seigneur nous aide donc à être lucide, à penser à notre besoin du Sauveur, même si nous sommes sauvés. C'est constamment un besoin de nous mettre face à Dieu comme notre juge et notre Sauveur. Et ça va nous amener à nous réjouir beaucoup plus de son salut, de sa grâce indescriptible. Nous allons chanter dans le carnet. Le numéro 42, et après ça, nous aurons juste un petit moment de prière libre. 42, Seigneur reçois, Seigneur pardonne.